Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Je salue les auditeurs de Radio Immo. Nouvelle édition d'Avis de valeur. Vous connaissez la recette. Deux regards, deux voix vont se croiser sur un sujet d'actualité immobilière. Alors, celui-ci, il a une très vive actualité. Il a fait parler de lui. C'est un sujet crucial. La discrimination raciale, en particulier, par les agences immobilières au moment de choisir un locataire. Et une très récente enquête de SOS Racisme qui donne de l'actualité à ce sujet, qui, pour le reste, est très régulièrement observé, que ce soit cette association ou d'autres, que ce soit les pouvoirs publics, on a régulièrement une observation de la situation. Et on peut bien le dire, ce qui sort de la dernière enquête n'est pas positif, c'est-à-dire, allez, à la louche, une agence sur deux. C'est une enquête particulière, d'ailleurs, semble soumise à ce que des propriétaires bailleurs lui demandent en matière de discrimination. Alors, c'est un sujet très particulier. Hein, donc, c'est pas l'agence elle-même, c'est dans sa relation avec le propriétaire bailleur qu'est-ce qui se passe. Sujet crucial, et on va demander à deux personnalités de bien vouloir s'exprimer sur le sujet. On y va.
Avis de valeur, la rumeur d'Henri.
Pour traiter ce sujet, on a fait le choix d'avoir deux invités. Je remercie d'abord Bénédicte Rouault d'être avec nous. Elle est la chef de cabinet du président de la Fédération nationale de l'immobilier, qu'on peut citer, Jean-Marc Torollion. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Henri, merci de recevoir.
Alors voilà, donc elle va représenter, j'allais dire, l'univers de ces corps intermédiaires, hein, des organisations professionnelles qui sont là pour prêcher la bonne parole, pour former, informer les professionnels, les conduire à avoir toujours de meilleures pratiques. Et c'est une maison que je connais bien, hein, et elle s'assigne ce métier-là. C'est pas la seule, mais elle est la plus grande organisation professionnelle aujourd'hui. Et je remercie beaucoup Jean-Benoît Petit d'être avec nous. Il est le directeur de l'agence Orpi, premier réseau national d'agences immobilières et de cabinets de gestion en France, à Suresnes. En l'occurrence.
Exactement.
Donc il est tout près de Paris, sur un marché tendu, c'est intéressant aussi. Hein. Je remercie d'être avec nous. Je vais même ajouter une chose. Ce sujet, il est très délicat. J'ai proposé à plusieurs professionnels d'être là. Lui, il a accepté. Voilà. Donc je le dis, je ne suis pas en train de montrer du doigt les autres parce que je peux très bien comprendre que ce soit délicat. Comme je remercie Bénédicte d'ailleurs et la FNAIM. Bref, c'est un sujet très sensible. Très, très sensible. On n'est pas sur un sujet commercial, comme on l'évoque dans d'autres émissions d'Avis de valeur. C'est moral, c'est juridique, c'est éthique. Ça touche à des considérations extrêmement lourdes.
Hein. C'est un peu tout et ça.
Voilà. L'image de la profession, sa valeur ajoutée, son rôle, on est vraiment au cœur de beaucoup de thèmes absolument majeurs. Voilà. Règle du jeu de l'émission, on part de ce que pensent dans la rue nos compatriotes, comme dirait le président de la République. Et avec le concours de Charlotte Ekerl, notre réalisatrice, on est allé poser trois séries de questions. On envoie la première et je vous fais réagir tous les deux.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Pas du tout. Je m'y intéresse pas trop de base.
Alors, pas du tout. J'en avais pas connaissance du tout. Je le savais pas, mais du coup, je trouve ça très bien que ce soit illégal. Ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait des propriétaires qui essayent de contourner cette loi.
Les obligations des agences.
L'enquête des SOS Racisme, qui est la énième du genre, d'évidence, elle n'est pas connue, hein, de l'opinion. Alors bon, peut-être que c'est parce que sa publicité n'a pas été assez forte, bon bref. Mais on voit qu'il y a une sensibilité aux obligations des agences, et puis c'est viscéral pour les ménages français. On porte atteinte à ce qu'est le droit, d'une part, et puis à ce qu'est le droit de chacun à prétendre à un logement, quelle que soit sa condition, pour autant qu'il soit solvable et qu'il réponde aux obligations de la loi. Nous visons aujourd'hui, c'est la volonté du législateur, c'est la volonté de la profession, le zéro défaut. Comment on peut arriver au zéro défaut? Comment on peut éradiquer la discrimination? Peut-être un mot, Bénédicte, sur le rôle aussi de ces associations, parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent embêter les professionnels? Bon, quel regard de la FNAIM sur ces enquêtes qui sont faites, ces testings, hein, on s'appelle des testings. Celui-ci, il est particulier, c'est-à-dire que SOS Racisme s'est fait passer, on va dire les choses, hein, pour un propriétaire bailleur, est allé voir des agences en disant, bah, écoutez, nous, on aimerait bien que vous fassiez un petit tri à notre manière. Réaction des agences. Le regard de la FNAIM sur la démarche, déjà, sur la méthode.
Sur la démarche, d'une part, on a été étonnés parce qu'effectivement, ces enquêtes, elles ont lieu très régulièrement. Et c'est vrai qu'elles ont lieu tous les deux ans. Et nous, ce qu'on invite... On ne peut pas se plaindre qu'il y ait des enquêtes. C'est le rôle de ces associations. Parce que quand elle regarde la FNAIM sur ces associations ont leur légitimité.
C'est leur mission.
C'est leur mission.
Ouais.
Elles sont là pour ça.
Ouais.
Après, il y a deux choses qu'on peut déplorer. C'est que sur ces testings, la base est quand même assez faible.
136 agences,
ouais,
me semble-t-il.
C'est très peu.
Sur combien, 26 ou 27 000 hein, en France?
Même plus, 30 000.
30 000,
facilement,
voilà.
30 000. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas les résultats de cette enquête, en fait. On a un extrait, on a un dossier de presse.
C'est
on a demandé à SOS Racisme à avoir le détail de qui étaient les professionnels, non pas pour jouer aux policiers.
Non, pour analyser.
Entre pour analyser.
Pour faire votre travail.
Pour aussi pouvoir avoir une action ciblée auprès de
bien
ces
sûr.
Agences immobilières.
Bien
parce
sûr.
Qu'effectivement, au-delà des nombres, ce qui importe aussi, c'était les verbatims qui n'étaient pas très faciles à traiter. Et on voulait aussi pouvoir récompenser ceux qui ont bien joué le jeu.
Oui.
Et je sais que c'était une demande qui était partagée par tous les réseaux de l'immobilier qui ont participé à une réunion avec la ministre du Logement, tous les réseaux, tous les groupes. On a fait tous la même demande et SOS Racisme n'a pas voulu donner ça, avec des arguments qu'on peut entendre, qui sont bah oui, sinon vous allez pointer du doigt le collaborateur qui est responsable,
mais
etc.
Mais on peut entendre que vous le regrettiez.
Pour avoir une vision pédagogique et que ces testings servent à quelque chose, oui, on le regrette beaucoup. Et enfin, troisième chose, c'est que notre demande, deuxièmement, et c'est celle qui est portée aussi par la ministre du Logement, c'est que ces testings, on puisse, et c'est ce que ça a été la démarche du défenseur des droits il y a deux ans, ça a été j'annonce que je vais faire un testing, en fait, que je vais faire une campagne de testing, de façon à avoir là encore un rôle pédagogique. Là, on a un petit peu l'impression que la campagne visait à pointer plus qu'à avoir une volonté pédagogique. Mmh. Et ça, on le regrette. En revanche, effectivement, nous, et c'est l'un des travaux qu'on va entamer avec la ministre du Logement, qui est d'organiser des campagnes de testing, qui est de prévenir, pendant les trois prochains mois, potentiellement, vous allez avoir un testing, vous allez pouvoir, va y avoir sur
on
ce sujet.
On avertit qu'il va y avoir un radar sur l'autoroute.
Exactement.
Hein,
on
c'est
avertit
ça, c'est la même démarche.
Et c'est exactement la même démarche. Et en fait, on sait que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et le défenseur de droit nous a plutôt soutenus dans cette démarche, parce que lui, il avait constaté que le radar sur l'autoroute avait permis de calmer la vitesse.
Oui, parce qu'au fond, et c'est la mission de la fédération, comme des autres syndicats, comme de l'association, c'est que la situation s'améliore.
Bien sûr.
C'est pas de punir, c'est pas de montrer du doigt. Peut-être qu'il faut, on va y revenir,
oui.
Sanctionner, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il faut que ça s'améliore.
Il faut que ça s'améliore. Et le rôle principal de la fédération, c'est effectivement de faire de la pédagogie auprès de ses adhérents, de leur donner les bons outils, de les former. Pour le coup, on a effectivement une école, mais comme vous, cher Henri, qui est de leur mettre à disposition les outils pour les former. On a donné un mandat de gérance avec la disposition sur la discrimination.
Bien
on
sûr.
Leur met en place un
Bien
guide.
Sûr.
Parce que vous avez attiré l'attention sur le fait que c'est principalement sur la discrimination raciale, mais on sait que ce n'est pas la discrimination.
C'est pas la
n'est
seule.
Pas que la seule discrimination. Et par exemple, à l'heure actuelle, la fédération est engagée dans un travail sur la question du handicap, qui est une toute autre forme de discrimination qui appelle des solutions très différentes. Donc voilà, la fédération, elle accompagne, elle forme et elle donne des outils.
Jean-Benoît, peut-être deux choses, parce que je mentionnais votre appartenance au réseau Orpi. Est-ce que ce réseau vous a prévenu, informé, alerté? Est-ce qu'il y a une action spécifique de ce réseau-là, dont la mission, par ailleurs, est commerciale, de vous donner des outils pour bien réussir, hein, mais est-ce qu'elle va jusque-là? Et puis, votre regard à vous sur cette démarche de testing et vos convictions. Est-ce que vous dites, moi, je suis indigné de tout ça, pourquoi on vient m'embêter? Voilà, votre réaction.
Alors, effectivement, il y a plusieurs choses à aborder dans ce point-là. La première chose, c'est qu'effectivement, j'ai pas la liberté de parler pour tous les réseaux, bien sûr,
non,
mais
bien
c'est
sûr,
vrai qu'au sein d'Orpi, ça a été, il y a eu de la communication qui a été mise en place au sein des outils informatiques Orpi, aussi auprès par l'intermédiaire des consultants qui viennent accompagner les agences et notamment les ADBistes, enfin tous les gestionnaires de
biens. Ceux qui vous visitent, qui vous aident, etc.
Exactement, et ont été mis en place tant en e-learning des formations sur la discrimination, en alertant évidemment sur les bonnes pratiques et aussi sur les sanctions. Et effectivement, l'objectif zéro défaut, il est partagé, je pense, par l'intégralité des réseaux. Et effectivement, on se confronte à ça des difficultés de terrain concrètes, tant
on va y revenir.
Du chef d'entreprise que du collaborateur qui doit prendre ce choix à ce moment-là. Après, pour ce qui est des enquêtes de testing, alors, c'est ni nouveau, ni... Ça
vous indigne ou est-ce que vous comprenez ? Pour être tout à fait clair.
Pour être tout à fait clair, je suis entre les deux. C'est-à-dire que à la fois, ça ne m'indigne pas parce que la volonté, on la comprend. Et c'est malheureusement une des seules façons d'obtenir une information peut-être non filtrée. Et en même temps, je rejoins ce que disait Bénédicte sur le fait que la prévention, elle a quand même une vraie valeur ajoutée et que, pour reprendre l'image du radar et du panneau qui annonce le radar, c'est sûr que même si ça filtre un petit peu l'information brute, au moins ça peut alerter et aller inquiéter potentiellement des dirigeants ou des collaborateurs qui vont se dire, c'est vrai que ça a été abordé en formation, on m'en a parlé, mais dans mon quotidien ça me permet pas d'atteindre soit mon objectif, soit de récupérer ce bien, soit peu importe l'argument qui est dans la tête de l'interlocuteur à ce moment-là.
Alors, on va toucher au cœur du sujet avec le concours de Charlotte et personnes qui ont bien voulu réagir dans la rue. On va leur demander s'ils comprennent que des propriétaires, encore une fois, c'était ça le sujet de cette enquête, donnent des consignes orientées de choix des locataires à des agents immobiliers ou à des gestionnaires. Quels critères devraient-ils utiliser, sinon ceux qu'ils dictent ou qu'ils voudraient dicter aux administrateurs de biens. On y va.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Si c'est sur des plans techniques, oui, mais c'est sur les futurs locataires, non. Mettre des critères, c'est horrible, quoi. Enfin, dans le sens où si c'est au faciès, ça sert à rien, quoi, parce que c'est une histoire de confiance, mais ça devient plus un problème personnel que professionnel. Je trouve ça complètement absurde. Et injuste parce qu'il y en a qui cherchent des appartements et qui sont bloqués au faciès. Des raisons racistes ou alors juste de blocage personnel, quoi.
Je trouve ça injuste et je trouve ça dommage qu'on en soit encore là. Je pense que je comprends pas trop, quelque part, pourquoi en fait, pourquoi elles acceptent ça. Enfin, ça me paraît tellement, tellement loin de moi en fait comme manière de penser.
Les propriétaires, ils ont souvent des préjugés sur les gens. Ils ont besoin de sécurité, en fait. Moi, je suis locataire. Et en fait, j'ai énormément de chance de trouver parce que je suis jeune et parce que j'ai pas un salaire de ouf. Mais en fait, je l'ai eu parce que j'avais une garante, parce que j'avais ma mère qui gagnait beaucoup. Sans ça, sans le fait que je sois blanc aussi, ça aidait vachement. C'est con, mais... C'est comme ça, du coup, ils vont se baser sur des préjugés. Si c'est une famille d'immigrés, ça va faire du bruit. Ils vont laisser les lieux dégueulasses. C'est ce qu'ils se disent, eux, dans leur tête, quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Malheureusement, les propriétaires correspondent à une catégorie sociale très restreinte. Et en fait, ils sont dans des espèces d'enclaves où, en fait, ils voient la société d'un œil pas assez ouvert.
Alors, on a fait le choix délibéré, ça vaut pas un sondage là non plus sur des milliers de Français, mais d'aller voir des femmes et des hommes plus jeunes qui statistiquement sont plus locataires qu'ils ne sont propriétaires pour les faire réagir. Bon, mais c'est intéressant parce que bon, on entend des choses qu'on aurait peut-être entendues chez des personnes plus âgées, à savoir, je comprends pas, c'est pas les bons critères. Bon, et puis une analyse à la fin qui dit mais tout ça repose parce que c'est le cœur du sujet, sur des préjugés, des raccourcis. Le propriétaire bailleur, Bénédicte, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut sécuriser son investissement locatif. C'est son boulot, c'est le boulot de son mandataire. Son principe. Le sujet, après, c'est les raccourcis ou les préjugés. À savoir, est-ce que quelqu'un qui va avoir telle couleur de peau, voire telle situation, on parlait personnes exactement en mobilité réduite, mais ça peut être des femmes seules avec enfants, ça peut être... Il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il faut que je l'assimile à quelqu'un à risque majoré ou pas ? Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces préjugés? Est-ce que la formation, vous l'évoquiez, Bénédicte, et ça m'est cher, mais et je crois même qu'il y a une obligation maintenant qu'a souhaité le pouvoir réglementaire. Est-ce que ça peut traiter une partie du mal en décortiquant dans la tête des professionnels ce qui se passe?
Honnêtement, c'était très intéressant comme les propos qui ont été tenus. La première, j'ai plein de réponses aussi à vos questions parce que vous en posez plusieurs. La première, c'est que la question de revenus, parce qu'en fait, effectivement, le propriétaire là pour sécuriser son investissement locatif, il confie ce mandat à une agence. Et en fait, la question de la seule discrimination entre guillemets qui est acceptée, c'est celle du revenu en fait.
C'est ça.
En revanche, effectivement, tout ce qui est la discrimination, il y a plusieurs discriminations parce que de la même manière dans ce qu'ils disent, en fait, on sent le côté et la discrimination directe. Pardon, je vais faire cliché, mais on ne veut pas d'un noir dans cet appartement ou autre. Mais il y a aussi les discriminations indirectes. Et en fait, c'est ça qui est parfois très compliqué. C'est aussi pour ça que la formation est clé. Parce que, je vais donner un exemple, vous ne voulez pas d'un locataire avec telle allocation. Bah en fait, c'est une discrimination parce que potentiellement, c'est une allocation que peuvent ne toucher que certains types de locataires. Donc, ça peut être une discrimination. Donc, la formation est absolument essentielle. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une obligation qui a été mise en place en 2020. Donc, elle est désormais, il y a 2 heures de formation obligatoire à la lutte contre la discrimination dans le cadre des 42 heures obligatoires pour les titulaires de cartes. Nous, on invite à aller plus loin. On voudrait que les collaborateurs habilités par les titulaires de cartes puissent aussi avoir cette obligation.
Intéressant, moi, je vais faire réagir Jean-Benoît là-dessus, parce que c'est le gars ou la femme qui est à la manœuvre,
et oui.
C'est-à-dire qui est face au candidat locataire, qui doit être avisé. C'est pas forcément le patron seulement.
C'est bien l'un des problèmes, en fait. Enfin, c'est pas un problème, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile quand on est le titulaire de carte, à mon avis, de s'engager et dire je refuse faire ça que quand on est le collaborateur. Il faut qu'il y ait un process très clair. Donc nous, on fait cette demande que ce soit aussi ajouté et qu'il y ait une obligation de formation initiale, enfin de compétences initiales pour les collaborateurs habilités, incluant ces 2 heures de lutte contre les discriminations. Et par ailleurs, nous, ce qu'on constate aussi dans le dernier testing, c'est que par rapport à la dernière fois, on a progressé. En 2021, la FNAIM, au sein de notre école, on a formé 2400 personnes à la lutte contre les discriminations. C'est bien. Et en fait, ce qu'on constate néanmoins, c'est que ça prend du temps, changer les comportements, changer les mentalités. D'autant plus dans une France, je suis désolée de faire un tout petit peu de politique politicienne, mais dans une France où la moitié des électeurs ont voté pour
des... On a des peurs. Ben oui, non mais c'est clair.
Donc, on ne peut pas ignorer, nos propriétaires ne sont ni meilleurs ni moins bons que les autres. Nos professionnels, par ailleurs, sont ce qu'ils sont aussi, inscrits dans ce contexte d'un peuple qui vote, encore une fois, à 50% pour des peurs. J'aime beaucoup l'expression. Mais en revanche, ce qu'on constate aussi, c'est que la formation, ça marche. Parce que, en fait, entre les deux enquêtes de SOS Racisme,
on a progressé.
En fait, on a progressé surtout sur un sujet, c'est sur le rappel à la loi. Lors de la dernière enquête de SOS Racisme, 50% des professionnels faisaient un rappel à la loi.
Là, les trois quarts.
Ouais. Alors, c'est pas bien de discriminer quand on fait le rappel à la loi, c'est pas ça. Mais en revanche, on constate que la formation, ça marche, que ça progresse. Et ensuite, ça prend beaucoup de temps de changer les mentalités, c'est sûr.
Déjà, très, très clairement, Jean-Benoît, la connaissance de la loi, est-ce que ça, vous le validez? Il y a, pas que chez vous, mais auprès de vos confrères, elle est connue, la loi, par les professionnels, ils sont même prêts à la rappeler aux propriétaires bailleurs. Et puis, parlons quand même aussi, de ces consignes de sélection. On va se dire les choses. Il ne s'agit pas de montrer du doigt. Je reçois ici, parfois, l'UNPI qui fait son boulot aussi là-dessus. Il ne s'agit pas de dire, les propriétaires, ils sont épouvantables, nous, on est plein de vertus. Comment ça se passe dans la vraie vie? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une bonne connaissance des obligations de la loi et des risques de sanctions? On l'évoquait. Et deuxièmement, comment ça se passe dans le dialogue avec un propriétaire qui vient vous confier un mandat?
En fait, c'est effectivement là tout là le cœur du problème. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit les uns les autres. La formation fonctionne. Effectivement, ça, on a constaté une progression, pas forcément celle encore attendue et dans le timing qu'on aimerait, mais pour que les choses changent, on dit souvent que les bonnes choses prennent du temps.
Bien sûr.
Effectivement, c'est dur de sortir de sa routine et de ses habitudes. Je pense que globalement, les professionnels ont bien conscience de ce qu'il faut ne pas faire et de comment essayer de s'en extirper. Après, connaître le chemin, c'est pas pratiquer le chemin. Et effectivement, on constate beaucoup, je reviens sur ce qu'on disait, il y a effectivement le titulaire de carte qui, lui, a fait
qui
sa
un
formation
peu d'auteur,
dire obligatoire,
bon, voilà.
Qui a un regard un peu plus différent.
Puis il y a les mains dans le cambouis.
Et il y a les mains dans le cambouis, il y a le collaborateur qui est là, qui est partagé entre l'atteinte de son chiffre d'affaires, parce qu'on reste des commerciaux aussi, le bon accompagnement de clients, la qualité de service et le fait de ne pas discriminer. Et en fait... je pense que la solution, elle vient. Alors, je trouve que c'est une excellente idée d'intégrer les collaborateurs et de leur obliger, ou de les obliger à se former sur ce sujet spécifique, parce que c'est effectivement pour tous les gestionnaires un sujet qui est quotidien. Et je dirais pas que c'est. Alors évidemment, c'est heureusement, c'est pas dans 100% des cas. Évidemment, tous les bailleurs n'ont pas de critères spécifiques à donner à leur agent immobilier. En revanche, je pense que la problématique, et que ce soit pour le coup le collaborateur ou le responsable d'agence, chacun voit aussi midi à sa porte, mais c'est de se dire que même si je suis ferme sur le fait que non, il ne faut pas, se pose toujours la question de se dire, de toute façon, si moi je dis non, il va aller dans n'importe quelle autre agence sur mon secteur.
Qui va céder.
Et il y en a un qui va dire oui. Et donc finalement, en fait, il est là. C'est-à-dire que je pense que la vraie solution d'amélioration, elle est d'être strict et alors soit de modifier. Alors, c'est pas mon rôle que de dire quelles règles il faudrait mettre en place ou comment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait gommer cet effet parasite de se dire si c'est pas moi, de toute façon, un autre le fera.
Et alors, Jean-Benoît, une question très intéressante, puis on va y revenir dans la troisième séquence, au remède. Mais est-ce que cette assimilation du risque majoré parce que la personne va être noire ou asiatique ou femme seule ou à mobilité réduite. Est-ce que dans l'esprit des professionnels, ça existe encore ? Mais parlons de vous, c'est vous notre invité, mais vous, est-ce que vous vous dites objectivement, moi je dois des revenus locatifs ? Il faut que ça tourne. Bon. Et le risque, il n'est pas lié à ça. C'est-à-dire que je fais une analyse objective. Ou est-ce qu'il y a encore, chez vos collaborateurs, chez vos confrères, des assimilations qui ne sont pas légitimes ?
Alors, après, il y a quand même un point sur lequel il faut... moi, j'ai fait faire cette formation à mes collaborateurs dédiés, justement, pour avoir un regard différent et bien comprendre les tenants aboutissants. Qu'ils ont tous d'ailleurs plutôt adhéré à ça. Au contraire, ils étaient même plutôt demandeurs, et c'est toujours hyper intéressant. Mais ils se sont surtout rendus compte qu'on pouvait être discriminant. Or, ce sujet racial, qui est le cœur du problème et qui est effectivement le sujet pointé par SOS Racisme dans son enquête, mais on peut être discriminant en étant de bonne foi. Je prends un exemple tout bête, parce que ça nous est arrivé, d'une résidence où il y a majoritairement des colocations de jeunes qui sont plus brillants, et on a une candidate locataire qui est plutôt une personne âgée, qui correspond, et où le collaborateur a envie de dire... Je suis pas sûr que ce soit la résidence
vous
qui
dans
vous
le
va bien.
Vous
en fait,
pas dans le tableau.
Ça part d'un bon sentiment de dire peut-être que c'est pas ce qu'il vous faut. Et pourtant, cette action-là, c'est considéré comme une action discriminante. Et effectivement, ça a permis de recalibrer aussi un petit peu le regard de chacun. Après, effectivement, des discriminations, elles peuvent être. Encore une fois, je m'écarte du sujet racial, mais parce qu'on a eu le cas dans une copropriété où c'est quasiment que des propriétaires, et il y a un ou deux biens en location, et il y en a un qui fait de la location saisonnière, Airbnb, et du coup, ça agace les copropriétaires et qui voulaient faire intégrer carrément dans le règlement de copropriété le fait d'interdire ça. Ça aussi, c'est une pratique discriminante.
Bien sûr.
Effectivement, j'en discutais avec un copropriétaire en disant ne faites surtout pas ça, parce que l'autre notion qui est hyper importante dans la discrimination, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Et c'est un sujet qui est quand même aussi important, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire non, on doit prouver qu'on n'a pas discriminé. Il ne suffit pas de dire j'ai été discriminé et j'ai des preuves. Non. Ils m'ont discriminé et c'est à celui qui est accusé de se protéger. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de sujets comme ça où c'est complexe. Après, pour revenir sur le cœur de l'enquête, il y a finalement plein de propriétaires bailleurs qui vont évoquer ça. Alors, c'est le meilleur remède contre ça, c'est de, quand on évoque sans dire clairement, c'est de jouer à celui qui ne comprend pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas, vous voulez pas quoi, vous voulez pas qui. Pourquoi ? Je comprends pas.
On a un peu de mal à articuler le truc. Hein,
exactement.
Quand on c'est ça.
On sent qu'il y a quand même il y a des propriétaires qui ont cette idée, mais qui ne l'assument pas et qui bégayent un petit peu quand il faut l'expliquer. Et donc en leur disant, mais vous savez que non seulement vous n'avez pas le droit de faire ça, mais en plus vous me mettriez moi en situation de complicité. Et moi, j'ai pas envie d'être complice de ça, surtout avec ce que je suis en train de vous tenir comme propos. Et donc effectivement, à ça, il y a des gens qui disent, ok, moi ma mission, monsieur le bailleur, c'est pas de vous amener un tel, c'est de vous amener quelqu'un qui correspond à la sécurisation l'optimisation de votre investissement.
Alors Jean-Benoît, on va continuer. C'est vraiment la troisième séquence. On va voir ce que pensent des personnes dans la rue de la manière d'éradiquer cette discrimination. C'est-à-dire, en fait, de vos deux points de vue, hein, Fnaïm ou professionnel, comment bien faire son métier sans discriminer.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Ben, ça c'est comme tout, on ne sait pas, c'est des progrès personnels à faire, c'est d'informer et de mettre des limites à ces personnes. Pour moi, c'est de la bonne éducation, quoi. Enfin, si tu veux louer ton appartement, tu vas pas faire du contrôle au faciès, c'est absolument pas légal. Mais je suppose qu'il y en a qui contournent la loi et qui utilisent les brèches pour mettre leurs critères. Oui, non, faudrait sévir un petit peu plus, je pense.
Non, je sais pas, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais faudrait peut-être que les propriétaires rencontrent eux-mêmes les personnes à qui ils louent leur appartement. Et en fait, le fait de passer par une agence, je pense que ça simplifie certainement certaines démarches à faire, etc., ou du temps. Mais si le propriétaire se sent pas en confiance vis-à-vis de certaines personnes, ouais, il a qu'à les rencontrer lui-même au lieu d'essayer de contourner la loi en demandant ça à son agence. Ouais, je trouve ça vraiment bas comme manière d'agir.
Faudrait bouger les mentalités, enfin, genre c'est con, mais... Demander peut-être d'autres documents que le nom, l'âge et l'argent. Qu'il y ait plus de liens sociables entre les gens qui discutent, qui se demandent genre, d'où est-ce qu'il vient, comment ils sont dans leur vie, genre, ce qu'ils font comme travail, leur passion, leur hobby, enfin, genre, des trucs bêtes comme ça, qui petit à petit pourraient décrasser un peu ces vieux clichés que la plupart des gens ont et bah, que les gens parlent, en fait. Les gens ont des préjugés parce qu'ils se parlent pas entre eux, parce qu'ils restent qu'entre eux. Et alors que si, ils se parlaient simplement avec des gens qui sont pas de leur milieu, des gens pas du même genre, ou même pas des mêmes origines, des mêmes ethnies, on avancerait déjà d'un premier pas. Je pense, après, j'ai pas la vérité absolue.
Bon, Bénédicte, il y a de l'intelligence dans ce qu'on entend. Des choses très discutables, hein, mais justement, parlons-en un peu. On entend, ce serait bien que les propriétaires qui confient un bien à une agence, ils voient directement les candidats et ça les rassurerait. Moi, j'ai envie de retourner la question. Quelle est la place du professionnel? Est-ce qu'il faut que le professionnel renvoie au propriétaire bailleur ou est-ce qu'il ne peut pas prendre la responsabilité? C'est ce que disait Jean Monod tout à l'heure. Moi, j'ai un propriétaire bailleur. Monsieur, moi, je vous dois une prestation. Vous pouvez m'attaquer si je le fais mal. Mais pour le reste, il m'appartient de choisir le locataire. Est-ce que ce n'est pas le sujet, ça?
Ils disent des choses très intelligentes qui ne sont pas propres au logement, qui effectivement, il faut que les gens se parlent, se rencontrent, découvrent, et en fait, on viendra à bout des clichés comme ça, mais c'est en fait le concept de... Ils apportent une réponse de comment on change les comportements.
Oui.
C'est pas un enjeu professionnel tel qu'ils le racontaient, ça prendra beaucoup de temps. Et effectivement, mais ça, pour le coup, quand on a des rencontres avec les institutionnels, ils en sont très 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 conscients que ça prend du temps de changer les mentalités. En revanche, s'agissant de... Il faut que le propriétaire rencontre directement le locataire, peut-être, mais en attendant, les professionnels sont meilleurs sur la lutte contre les discriminations que le particulier à particulier.
Voilà.
Parce qu'effectivement, pour ça, il y a deux points. La première, c'est que tous les sondages démontrent, tous les testings, etc., démontrent que quand on teste PAP et les professionnels...
Il n'y a pas photo.
Bon. Mais il y a un autre sondage qui était intéressant, que la FNAIM avait fait à l'époque, qui date de 2019. On avait interrogé les bailleurs sur pourquoi ils ne passaient pas par un professionnel. Et 42% d'entre eux répondaient que c'était pour ne pas avoir à se conformer à la loi. Donc c'était assez intéressant en fait du fait que effectivement justement finalement le professionnel rend plus complexe la capacité à ne pas encadrer le loyer, à ne pas respecter l'encadrement des loyers, à pouvoir discriminer, etc. Ça en fait partie, à notre avis, ça en fait partie. En revanche, dans les autres choses qu'ils ont pointées, il y a déjà des choses en place sur la sanction pénale est forte.
Alors voilà, renforcer les sanctions, on entend.
C'est déjà 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire c'est pas anecdotique, c'est une amende, elle est forte.
On est d'accord.
S'agissant du contrôle, parce que j'ai aussi entendu ça, pour le coup, les professionnels sont les premiers à demander la nomination d'une instance disciplinaire au sein de la profession qui serait la commission de contrôle au sein du CNTGI.
Que la loi de 2014 a prévu. La loi
de 2014 et surtout 2018 a vraiment prévu, et ça fait, on attend. On attend depuis 5 ans. Donc effectivement, nous, il y a des choses qui disent, on est d'accord, hein, mais effectivement, la solution ne dépend pas de nous. Mais encore une fois, sur l'essentiel de ce qu'ils disent, c'est des choses qui impactent le changement de comportement et on ne va pas le faire en clic, en un clic, quoi. C'est pas magique et ça prend du temps, des années, et on ne peut que l'accompagner. On continuera à former et à déployer massivement la formation. Encore une fois, parce que effectivement, tous les exemples qui étaient pris globalement, on a besoin de les aider, d'avoir les bons réflexes trouvés. Parce que encore une fois, entre dire j'aime pas discriminer, je sais comment résister face aux propriétaires, il faut avoir les bons codes, les bons réflexes, les bons voilà. Et ça, c'est le principe de ce qu'on apprend dans la formation.
Jean-Benoît, pour mettre des pieds dans le plat, parce que tout à l'heure vous disiez très justement, il y a le chiffre d'affaires. Bon, on va pas reprocher à un professionnel de vouloir faire son métier et avoir la matière pour le faire. Ça s'appelle des mandats quand on est gestionnaire locatif. Sans ça, on n'a rien à louer. Est-ce que cette autorité, on en parlait avec Bénédicte, qui consiste à dire à un propriétaire, attendez, moi je suis le meilleur juge, donc vous me déléguez ce pouvoir. Et je ne discute pas là-dessus, je ne transigerai pas. Et deuxièmement, est-ce que réellement il y a un risque de perte de mandat? Est-ce qu'on ne peut pas exercer une autorité sur le propriétaire bailleur en lui disant, moi, c'est ce que vous disiez, ça je ne veux pas l'entendre, j'ai même pas compris vraiment la question. Et deuxièmement, je vous demande de bien vouloir me faire une totale confiance sur ce sujet-là. C'est moi qui tiens les rênes là-dessus, vous me payez pour ça. Est-ce que je risque de perdre le mandat? Ou est-ce que ce n'est pas l'inverse? Est-ce que je ne vais pas me dire, finalement, ce gars-là, cette femme-là, il y a une autorité professionnelle?
En fait, alors c'est une question très intéressante. La problématique, elle se pose pas dans l'intégralité des mandats. Alors, au-delà du fait qu'évidemment, il y a des bailleurs qui ne sont pas concernés par ce sujet de discrimination, parce que ils s'en fichent, ce qu'ils veulent, c'est un locataire qui entretient leur bien, qui reste durablement.
Important de le rappeler,
C'est l'idéal.
On parle des malades, il y a beaucoup de bien portants quand même.
Exactement. Voilà. Mais effectivement, le problème, il se pose pas sur un mandat qu'on gère, un locataire part, et lorsqu'on a des nouveaux profils de locataires, à ce moment-là, en fait, c'est exactement là le sujet. Donc, c'est pas difficile d'être fort face à quelqu'un qui nous a déjà fait confiance et auprès de qui on a pu réaliser une première fois ou une deuxième fois cette mission, et qui du coup est confiant et convaincu du bien fondé de nous l'avoir confié.
C'est le newbies, c'est les nouveaux mandats.
Le problème, c'est effectivement l'interlocuteur qui appelle quelques agences et qui du coup fait sa petite analyse marketing pour se dire est-ce que c'est plus intéressant financièrement ici, est-ce que l'interlocuteur me fait plus ici, et surtout est-ce que cet interlocuteur là va être d'accord avec ce que je vais lui demander, parce que les bailleurs qui discriminent ont cette idée en tête, sinon ils le formulerait pas.
Bien sûr.
Et donc, quand ils posent cette question-là, et on l'a vu justement dans l'enquête, il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent non, et ceux qui disent non, il faudrait pas, mais qui finalement ploient. Et je pense que c'est ce segment-là qui serait le plus facile à faire évoluer. Mais il va falloir aider. En fait, pour moi, une des problématiques majeures, elle est qu'on demande à l'agence immobilière de faire bien plus qu'être juste le professionnel qui va trouver le bon bien. On lui demande de faire la politique pour Tracfin et de vérifier la solvabilité. On lui demande de...
Notre tiers de confiance de l'État et des pouvoirs publics.
Et en fait, le truc, c'est qu'on demande à une agence immobilière, une entreprise qui vit de son activité, de faire le choix, si effectivement il y a conflit sur la discrimination, de se dire, est-ce que je dois prendre quand même ce mandat ou pas? Et effectivement, on n'est pas, à part accepter de perdre cette affaire, et c'est un choix qui est fait par de nombreux professionnels en se disant je préfère ne pas faire cette affaire et je me concentrerai sur
d'autres. Intéressant ce que vous dites.
Mais il y a aussi effectivement le nerf de la guerre, le quotidien, et surtout un contexte complexe où on se dit est-ce que finalement je vais juste aller renforcer la gestion de mon concurrent.
Le portefeuille de mon concurrent.
Et effectivement, il y a ce sujet qui est dur. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Bénédicte tout à l'heure.
Et on s'arrêtera là-dessus, ce sera le mot de la fin.
C'est qu'effectivement, c'est des mentalités qu'il faut changer. Et je reviens sur ce qu'on disait. C'est difficile dans une France où un électeur sur deux... et partager sur ce sujet.
Voilà, à des peurs, c'est l'expression que j'avais. Bénédicte y souscrivait, à des peurs.
À des peurs.
Fondées ou infondées, mais à des peurs.
Et donc, du coup, je ne suis pas sûr que ce soit l'agence immobilière gestionnaire qui est capable de résoudre ces peurs.
Alors, écoutez, je voudrais vous remercier l'une et l'autre pour la franchise de vos propos. C'est un sujet délicat, je l'avais dit. Tous les deux, vous avez été partants pour échanger sur ce sujet. Merci à Jean-Benoît Petit, un professionnel qui a pas la langue dans sa poche, voilà, et qui a des convictions. Et puis Bénédicte, au nom de la FNAIM, qui fait beaucoup pour que ce problème soit résolu. Et il n'est pas facile, on l'a dit, il dépasse largement l'univers de l'immobilier, l'univers des fédérations et des professionnels immobiliers. Merci encore, rendez-vous sur un autre sujet crucial bientôt.
Avec plaisir.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.